4-4. L'effet de la nuit, le passage du saumon. Quand de la barricade du petit carreau on vit Dussoube tomber, si glorieusement pour les siens, si honteusement pour ses meurtriers, il y eut un instant de stupeur. Était-ce possible? Était-ce bien là ce qu'on avait devant les yeux? Un tel crime commis par nos soldats! L'horreur était dans les âmes. Cet instant de surprise dura peu. « Vive la République !» cria la barricade tout d'une voix. Et elle riposta au guet-apens par un feu formidable. Le combat commença. Combat forcené du côté du coup d'État, lutte désespérée du côté de la République. Du côté des soldats, une résolution affreuse et froide, l'obéissance passive et féroce. Le nombre, les bonnes armes, les chefs absolus, des cartouches plein les gibernes. Du côté du peuple, pas de munitions, le désordre, la fatigue, l'épuisement, pas de discipline, l'indignation pour chef. Il paraît que, pendant que Dussoube parlait, 15 grenadiers, commandés par un sergent nommé Pitroy, avaient réussi à se glisser dans l'obscurité le long des maisons et avaient, sans être aperçus ni entendus, pris position assez près de la barricade. Ces 15 hommes se groupèrent tout à coup, la baïonnette en avant, à 20 pas, prêts à escalader. Une décharge les accueillit. Ils reculèrent, laissant quelques cadavres dans le ruisseau. Le chef de bataillon, Jeannin, cria « Finissons-en !» Le bataillon qui occupait la barricade Montconseil parut alors tout entier, les baïonnettes hautes, sur la crête inégale de cette barricade. Et de là, sans rompre ses lignes, d'un mouvement brusque, mais réglé et inexorable, s'élança dans la rue. Les 4 compagnies, serrées et comme mêlées et à peine entrevues, semblaient ne plus faire qu'un flot qui se précipitait à grand bruit du haut du barrage. À la barricade du petit carreau, on observait le mouvement et l'on avait suspendu le feu. « En joue !» criait Jean Tissard. « Mais ne tirez pas, attendez l'ordre !» Chacun s'épaula. Les canons des fusils se posèrent entre les pavés, prêts à faire feu, et l'on attendit. Le bataillon, une fois sorti de la redoute Mauconseil, se forma rapidement en colonne d'attaque, et un moment après, on entendit le bruit intermittent du pas de course. C'était le bataillon qui arrivait. « Charpentier, dit Jean Tissard, tu as de bons yeux. Sont-ils à mi-chemin ?»« Oui, dit Charpentier. Feu !» cria Jean Tissard. La barricade fit feu. Toute la rue disparut dans la fumée. Plusieurs soldats tombèrent. On entendit les cris des blessés. Le bataillon criblé de balles s'arrêta et riposta par un feu de peloton. 7 ou 8 combattants, qui dépassaient de la moitié du corps la barricade faite à la hâte et trop basse, furent atteints. 3 furent tués roides. 1 tomba, blessé d'une balle au ventre, entre Jean Tissard et Charpentier. Il hurlait. « Vite, à l'ambulance !» dit Jean Tissard. « Où ?»« Rue du Cadran. » Jean Tissard et Charpentier prirent le blessé, l'un par les pieds, l'autre par la tête, et l'emportèrent rue du Cadran par la coupure de la barricade. Pendant ce temps-là, il y eut un feu de fil continu. Plus rien dans la rue que la fumée, les balles sifflant et se croisant, les commandements brefs et répétés, quelques cris plaintifs, et l'éclair des fusils rayant l'obscurité. Tout à coup, une voix forte cria « En avant !» Le bataillon reprit le pas de course et s'abattit sur la barricade. Alors, ce fut horrible. On se battit, corps à corps, 400 d'un côté, 50 de l'autre. On se prit au collet, à la gorge, à la bouche, aux cheveux. Il n'y avait plus une cartouche dans la barricade, mais il restait le désespoir. Un ouvrier, percé d'outre en outre, s'arracha du ventre la baïonnette et empoignarda un soldat. On ne se voyait pas, et l'on se dévorait. C'était un écrasement à tâtons. La barricade ne tint pas 2 minutes. Elle était basse en plusieurs endroits, on s'en souvient. Elle fut enjambée plutôt qu'escaladée. Cela ne fut que plus héroïque. Un des survivants, note 18 février, Louvain, disait à celui qui écrit ces lignes « La barricade se défendit très mal, mais les hommes moururent très bien ». Tout cela se passait pendant que Gentissart et Charpentier portaient le blessé à l'ambulance de la rue du Cadran. Le pansement terminé, ils s'en revinrent à la barricade. Ils allaient y arriver quand ils s'entendirent appeler par leur nom. Une voix faible disait tout à côté d'eux « Gentissart, Charpentier !» Ils se retournèrent et virent un des leurs qui se mourait, les genoux fléchissants et adossés au mur. C'était un combattant qui sortait de la barricade. Il n'avait pu faire que quelques pas dans la rue. Il tenait la main sur sa poitrine, où il avait reçu une balle à bout portant. Il leur dit d'une voix qui articulait à peine « La barricade est prise, sauvez-vous. »« Non, dit Gentissart, j'ai mon fusil à décharger. » Gentissart rentra dans la barricade, tira son coup de fusil et s'en alla. Rien de plus effroyable que l'intérieur de la barricade prise. Les républicains accablés par le nombre ne résistaient plus. Les officiers criaient « Pas de prisonniers !» Les soldats tuaient ceux qui étaient debout et achevaient ceux qui étaient tombés. Plusieurs attendirent la mort, la tête haute. Des mourants se relevaient et criaient « Vive la République !» Quelques soldats broyaient à coups de talons la face des morts, pour qu'on ne les reconnût pas. On voyait étendus parmi les cadavres au milieu de la barricade, les cheveux dans le ruisseau, le presque homonyme de Charpentier, Carpentier, délégué du comité du 10e arrondissement, qui avait été tué à la renverse de 2 balles dans la poitrine. Une chandelle allumée, que les soldats avaient prise chez le marchand de vin, était posée sur un pavé. Les soldats s'acharnaient. On eût dit qu'il se vengeait. De qui ? Un ouvrier nommé Paturel reçut 3 balles et 10 coups de baïonnette, dont 4 dans la tête. On le crut mort et l'on ne redoubla pas. Il se sentit fouillé. On lui prit 10 francs qu'il avait sur lui. Il ne mourut que 6 jours après. Il a pu raconter les détails qu'on vient de lire. Notons en passant que le nom de Paturel ne se trouve sur aucun des inventaires de cadavres publiés par M. Bonaparte. 60 républicains s'étaient enfermés dans cette redoute du Petit Carreau. 46 s'y firent tuer. Ces hommes étaient venus là le matin, libres, fiers de combattre et joyeux de mourir. À minuit, c'était fini. Les fourgons de nuit portèrent le lendemain 9 cadavres au cimetière des Hospices. Et 37 à Montmartre. Gentissart avait miraculeusement échappé, ainsi que Charpentier et 1/3 dont on a pu retrouver le nom. Ils se glissèrent le long des maisons et arrivèrent au passage du Saumon. Les grilles qui ferment le passage la nuit n'atteignent pas jusqu'au cintre de la porte. Ils les escaladèrent et enjambèrent par-dessus les pointes au risque de s'y déchirer. Gentissart fit l'escalade le premier. Parvenu en haut, une des lances de la grille traversa son pantalon, l'accrocha, et Gentissart tomba la tête en avant sur le pavé. Il se releva, il n'était qu'étourdi. Les 2 autres le suivirent, se laissèrent glisser le long des barreaux, et tous 3 se trouvèrent dans le passage. Une lampe qui brillait à l'une des extrémités l'éclairait faiblement. Cependant, ils entendaient venir les soldats qui les poursuivaient. Pour s'évader par la rue Montmartre, il fallait escalader les grilles à l'autre bout du passage. Ils avaient les mains écorchées, les genoux en sang. Ils expiraient de fatigue. Ils étaient hors d'état de recommencer une telle ascension. Gentissart savait où logeait le gardien du passage. Il frappa à son volet et le supplia d'ouvrir. Le gardien refusa. En ce moment, le détachement envoyé à leur poursuite arriva à la grille qu'ils venaient d'escalader. Les soldats, entendant du bruit dans le passage, passèrent les canons de leurs fusils à travers les barreaux. Gentissart s'adossa au mur, derrière une de ces colonnes engagées qui décorent le passage. Mais la colonne était fort mince, et il n'était couvert qu'à demi. Les soldats tirèrent. La fumée emplit le passage. Quand elle se dissipa, Gentissart vit Charpentier, étendu sur les dalles, la face contre terre. Il avait une balle au cœur. Leur autre compagnon gisait à quelques pas de lui, frappé mortellement. Les soldats n'escaladèrent pas la grille, mais ils y mirent une sentinelle. Jean Tissard les entendit qui s'en allaient par la rue Mandar. Ils allaient revenir sans doute. Aucun moyen de fuir. Il tâta successivement toutes les portes autour de lui. Une s'ouvrit enfin. Cela lui fit l'effet d'un miracle. Qui donc avait oublié de fermer cette porte? La Providence, sans doute. Il se blottit derrière, et il resta là plus d'une heure, debout, immobile, ne respirant pas. Il n'entendait plus aucun bruit. Il se hasarda à sortir. Il n'y avait plus de sentinelle. Le détachement avait rejoint le bataillon. Un de ses amis anciens, un homme auquel il avait rendu de ses services qu'on n'oublie pas, demeurait précisément dans le passage du Saumon. Jean Tissard chercha le numéro, éveilla le portier, lui dit le nom de son ami, se fit ouvrir, monta l'escalier et frappa à la porte. La porte s'ouvrit, l'ami parut, en chemise, une chandelle à la main. Il reconnut Jean Tissard et s'écria « C'est toi ? Comme te voilà fait ? D'où viens-tu ? De quelque émeute ? De quelque folie ? Et tu viens nous compromettre tous ici ? Nous faire égorger ? Nous faire fusiller ? Ah ça, qu'est-ce que tu veux de moi ? Que tu me donnes un coup de brosse, dit Jean Tissard. L'ami prit une brosse et le brossa, et Jean Tissard s'en alla. De l'escalier, en redescendant, Jean Tissard cria à son ami « Merci !» C'est là un genre d'hospitalité que nous avons retrouvé, depuis, en Belgique, en Suisse, et même en Angleterre. Le lendemain, quand on releva les cadavres, on trouva sur Charpentier un carnet et un crayon, et sur Denis Dussoubre une lettre. Lettre à une femme. Cela aime ces cœurs stoïques. Le 1er décembre, Denis Dussoubre commençait cette lettre. Il ne l'a pas achevée. La voici. « Ma chère Maria, avez-vous éprouvé ce doux mal d'avoir le regret de ce qui vous regrette ? Pour moi, depuis que je vous ai quitté, je n'ai pas eu d'autre peine que de penser à vous. Ma peine elle-même avait quelque chose de doux et de tendre, et quoique j'en fusse troublée, j'étais heureux cependant de ressentir au fond de mon cœur combien je vous aimais par le regret que vous me coûtiez. Pourquoi sommes-nous séparés ? Pourquoi ai-je été forcé de vous fuir ? Nous étions si heureux pourtant. Lorsque je songe à nos petites soirées, si pleines d'abandon, à nos gais entretiens de campagne avec vos sœurs, je me sens pris d'un amer regret. N'est-ce pas que nous nous aimions bien, mon ami ? Nous n'avions pas de secrets les uns pour les autres, parce que nous n'avions pas le besoin d'en avoir. Et de nos lèvres sortait la pensée de nos cœurs, sans que nous songeassions à en rien retenir. Dieu nous a ravis tous ces biens, mais rien ne me consolera de les avoir perdus. Ne déplorez-vous pas comme moi les maux de l'absence. Combien peu souvent nous voyons ceux que nous aimons. Les circonstances nous éloignent d'eux, et notre âme tourmentée et attirée en dehors de nous vit dans un perpétuel déchirement. J'éprouve ce mal de l'absence. Je me transporte dans les lieux où vous êtes. Je suis des yeux votre travail, où j'écoute vos paroles, assis auprès de vous et cherchant à deviner le mot que vous allez dire. Vos sœurs cousent à nos côtés. Songe vain, illusion d'un moment. Ma main cherche votre main, où êtes-vous, ma bien-aimée ? Ma vie est un exil. Loin de ceux que j'aime et dont je suis aimée, mon cœur les appelle et se consume dans ses regrets. Non, je n'aime pas les grandes villes et leurs bruits. Villes peuplées d'étrangers, où personne ne vous connaît et où vous ne connaissez personne, où chacun se heurte et se coudoie sans échanger jamais un sourire. Mais j'aime nos campagnes tranquilles, la paix du foyer et la voix des amis qui vous caressent. Jusqu'à présent, j'ai toujours vécu en contradiction avec ma nature. Mon sang bouillant, ma nature ennemie de l'injustice, Le spectacle de misères imméritées m'ont jeté dans une lutte dont je ne prévois pas l'issue. Lutte dans laquelle je veux rester sans peur et sans reproche jusqu'à la fin, mais qui me brise chaque jour et consume ma vie. Je vous dis à vous, mon ami bien-aimé, les secrètes misères de mon cœur. Non, je n'ai pas à rougir de ce que ma main vient d'écrire. Mais mon cœur est malade et souffrant, et je te le dis à toi, je souffre. Je voudrais effacer ces lignes, mais pourquoi ? Pourraient-elles vous offenser ? Et que contiennent-elles de blessant pour mon ami ? Ne connais-je pas votre affection, et ne sais-je pas que vous m'aimez ? Oui, vous ne m'avez pas trompé, je n'ai pas embrassé une bouche menteuse. Lorsque, assise sur mes genoux, je m'endormais au charme de vos paroles, je vous ai cru. Je voudrais me rattacher à une barre de fer brûlant. L'ennui me ronge et me dévore. J'éprouve comme une fureur de ressaisir la vie. Est-ce Paris qui me produit cet effet ? Je voudrais toujours être au lieu où je ne suis pas. Je vis ici dans une complète solitude. Je vous crois, Marie. Point de suspension. Le carnet de charpentier ne contenait rien que ce vers qu'il avait écrit dans l'obscurité, au pied de la barricade, pendant que Denis Dussoube parlait. « Admonet et magna testatur voce per umbras ».